La présente communication est le fruit d'une commande que m'a passée Yvan. Il s'est rappelé que jadis j'avais été l'inventeur, enfin au sens archivistique du terme, des archives relatives à ces passages de juifs et que j'avais publié dans un livre assez inaperçu, le premier résultat. Alors j'ai donc repris le dossier et complété par quelques recherches complémentaires. Alors pour situer la question, je rappellerai d'abord que l'antisémitisme est une tradition étrangère à la culture italienne. Et d'ailleurs, Mussolini, à ses débuts, a fait toutes sortes de déclarations aimables à l'égard des sujets italiens de religion israélite, comme on disait alors. D'ailleurs, sur les 50 000 Italiens vivant en Italie, 50 000 femmes et enfants confondus, 5 000 avaient adhéré au parti national fasciste. Et leur présence ne soulevait aucun problème. Le changement survint en 1938, au moment du raidissement totalitaire de l'Italie, de la conclusion de l'axe Rome-Berlin, et lorsque Mussolini jugea utile de se rallier à une politique antisémitique. Alors les intellectuels fascistes à la solde du régime se lancèrent dans des manifestes de la race italienne, voulant montrer que les Italiens étaient d'origine arienne, etc., etc. Toute une législation discriminatoire fut mise en place. Les juifs exclus de l'armée, exclus de l'administration, les mariages mixtes interdits, et, ça nous intéresse beaucoup pour le présent exposé, les juifs naturalisés italiens furent déchus de leur nationalité et ainsi, devenus étrangers, purent être expulsés. Le texte fondamental, c'est le décret du 12 septembre 38 qui imposa aux juifs étrangers, qu'ils fussent étrangers anciens ou redevenus étrangers récemment, qui leur imposa de quitter l'Italie dans les 6 mois. Or, à la date du 12 mars 39, date d'échéance, beaucoup encore étaient présents en Italie. Le problème était qu'il y avait ces juifs déchus et il y avait beaucoup de juifs allemands, tchécoslovaques, autrichiens, qui, profitant des bonnes dispositions initiales du Duce, s'étaient réfugiés en Italie, où d'ailleurs l'entrée était facile et où les possibilités de travail s'avéraient faciles aussi. Alors, à la veille de la Grande Guerre, ces flots de juifs étrangers étaient chassés d'Italie. Le pays le plus proche, évidemment, était la France, pays limitrophe, pays des droits de l'homme. Oui, mais en 1939, la France, depuis la fin de la Grande Guerre, était submergée sous les vagues migratoires. Les Arméniens d'abord, les Russes blancs ensuite, les Fourouchiti italiens et les victimes de toutes les dictatures européennes. Je rappelle qu'il y avait beaucoup plus de dictatures que de démocratie en Europe à ce moment-là, en ce temps-là. Les victimes du nazisme allemande, autrichienne, tchécoslovaque et à la veille de la guerre, donc début 39, à la veille des événements que je retrace ici, 500 000 d'Espagnols républicains vaincus au terme de la guerre civile espagnole. Donc la France s'était repliée dans une attitude, disons, globalement xénophobe, pour faire court. En plus, attitude fortifiée par la grande crise économique de 1929, qui n'était pas résolue à la veille de la guerre, et aussi attitude figée par peur d'une guerre avec le pays voisin, avec l'Italie, car l'Italie revendiquait le comté de Nice comme terre irrédente et la réannexion du comté, de telle sorte d'ailleurs que la frontière avait été fortement fortifiée. On avait repris les vieux ouvrages tirés de rivière et on avait construit 88 forts de tailles diverses le long de la frontière. Donc la France se repliait et à son tour, des décrets furent pris. 2 mai 38, les franchissements illégaux de la frontière furent punis de manière beaucoup plus sévère, je n'entre pas dans le détail de la législation. On créa également, par un décret de la même époque, de nouvelles brigades de gendarmerie frontalière pour garder les confins. Ces forces furent déployées depuis la côte jusque dans la vallée de la Haute-Roya. Les demandeurs d'asile étaient priés de faire la preuve, comme aujourd'hui d'ailleurs, des sévices dont ils se disaient victimes et d'obtenir un visa d'un consul français en Italie. Opération très compliquée. Donc un climat de rigueur au moment où les juifs étrangers d'Italie se dirigèrent vers la France. Or, à la surprise des autorités françaises, Mussolini, qui, on vient de le rappeler, n'est-ce pas, considérait la population comme une richesse, Mussolini favorisa le départ de ces juifs et même il mobilisa les contrebandiers promus de facto agents d'exécution de l'État, car il connaissait bien le terrain, pour qu'ils servissent de guide à ces juifs, avec l'aide des bergers, des paysans, tous ces gens convertis en passeurs. Bien entendu, les forces françaises redoublèrent de vigilance. Alors, comme la surveillance terrestre fut renforcée, on passa à la surveillance au passage maritime. Là, ce furent les pêcheurs et encore les contrebandiers, également convertis en agents officiels, qui, à des moments prévus, entassaient des juifs sur des bateaux, sur le point de chavirer. Bon, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais ça vous rappelle évidemment des événements que nous vivons. Et les amenaient, bateaux peints en gris pour mieux passer inaperçus la nuit, les amenaient sur les côtes françaises où des débarquements étaient prévus. Alors là aussi, la surveillance fut renforcée, la marine nationale, les vedettes des douanes, etc. Je n'entre pas dans le détail, si ça vous intéresse, je pourrais développer. Alors, j'arrive dans le sujet maintenant quand même. Cette activité suscita d'abord de nombreux rapports administratifs. Les rapports de la police, des commissaires spéciaux et de leurs collègues des autres services. Évidemment, ces rapports ont la tonalité de ce qu'ils sont, c'est-à-dire la sécheresse du ton. C'est un constat froid. On y retrace les circonstances de l'interception de ces fugitifs, la description du groupe de juifs, la composition, l'état civil, le sexe, l'âge, la nationalité, les circonstances du passage. Les Français, lui, sont effarés de découvrir que ce sont les Italiens, les autorités italiennes, les miliciens, les fascistes, les contrebandiers, les carabiniers qui font passer la frontière, guides agréés, en somme, qu'on leur vend même des pantoufles en feutre pour que les pas soient amortis pour le passage, ouais, qu'ils payent leur passage maritime également, très fort, etc., etc. Que les réseaux sont très bien organisés, il y a des complicités françaises, les réseaux les mieux organisés sont attendus, soit que des barques françaises se dirigeassent vers le large et qu'un transbordement fût opéré, soit que des signaux codés venant de la côte puissent avertir les Italiens que le passage était libre et qu'il n'y avait pas de force de l'ordre dans le coin. Alors, je disais froideur du ton. Quelquefois, à travers la relation administrative, perce la sensibilité des forces de l'ordre, car ce sont des hommes, eux aussi. Et de temps en temps, au détour d'une phrase, dans un paragraphe, on voit quelque chose. Je prends deux exemples. Juillet 39, deux douaniers français de Vintimille, de la gare internationale de Vintimille, apitoyés par une femme juive enceinte, prièrent deux policiers français de fermer les yeux et de faciliter le passage de cette femme. Les deux policiers inflexibles, s'y opposèrent et, allant encore plus loin, dénoncèrent les deux douaniers afin qu'ils fussent sanctionnés. Deuxième exemple, août 39, des gardes mobiles chargés de faire rembarquer des juifs qui venaient d'accoster dans le secteur de Menton furent frappés par le fait que trois de ces juifs tentèrent de se suicider plutôt que de repartir. Aussi décidèrent-ils de les laisser pénétrer en France. Et de leur laisser une chance, en somme, c'est-à-dire les déférer devant la justice pour qu'ils puissent plaider leur cause devant les juges français. Donc, vous voyez, il y a quand même de temps en temps une sorte d'humanité. Ces signes d'humanité, rares du côté des... Enfin, rares, peut-être qu'il y en a-t-il davantage, mais on n'en a pas la trace archivistique. Ces signes d'humanité furent beaucoup plus fréquents dans l'opinion en général. Un exemple dans les archives, des Mentonnais, en début 39, ayant vu des policiers essayer de refouler un groupe de juifs descendant de la montagne, ils avaient évité le pas de la mort et ils arrivaient par terre, s'interposèrent, protestèrent et convainquirent les policiers de laisser ces gens en France. Mais ce sont surtout les récits de presse qui sont les plus éloquents, les plus fréquents, avec beaucoup de sympathie, d'apitoiement. Et je vais prendre comme premier exemple un texte de l'Éclaireur de Nice, le grand journal de droite de l'époque, qui jusqu'en 38 avait été philo-fasciste, philo-italien, avait toujours nié l'existence de friction entre les deux pays. Et là, il y a une sensiblerie, sympathique finalement. Voici ce qu'ils disent. La mer très houleuse menaçait à chaque instant de faire tomber l'embarcation dans laquelle les Israélites, transis de froid, s'efforçaient à l'aide de leurs chapeaux, simplement de leurs pauvres mains glacées, d'écoper l'eau qui envahissait le bord. une pauvre femme, les yeux remplis d'effroi, le masque de la douleur peint sur le visage. Gisait au fond de la barque, à même l'eau qui l'emplissait lentement, alors qu'elle portait en son sein un enfant qui doit naître dans quelques jours. Donc, voilà pour un journal de droite. Alors, a fortiori, un journal de gauche, le Petit Niçois, centre-gauche, la mouvance radicale, si vous voulez. Ils parlent donc de juifs arrivés par voie maritime. Bien entendu, ils avaient dû payer la forte somme pour leur transport clandestin. L'un même qui n'avait plus d'argent avait dû remettre sa montre en or et un appareil photographique, tout ce qui lui restait pour prix de son passage. Alors, je ne vais pas multiplier les citations, mais on trouve des formules que j'ai relevées. Scènes déchirantes se produisant au port, désespoir, douleur profonde, homme fou de désespoir voulant se suicider, etc. Alors, la presse nous indique également qu'un comité d'assistance aux réfugiés juifs se constitua dès septembre 1938 avec à sa tête Jean Médecin, maire de droite de Nice, Virgile Barrel, fondateur du Parti communiste dans les Alpes-Maritimes, et l'inévitable Monseigneur Raymond, évêque de Nice, l'oncle de l'historien René Raymond, très philo-sémite, il avait des origines évidemment du sillon de Marc Sangnier, et puis la fraternité des monothéistes du livre, Credo in unum Deum patrem omnipotentem factorem chilia. Je ne vais pas les pauvres citer le credo, mais cette fraternité jouait beaucoup. Et en plus, entre ces trois hommes, tous les trois décorés de la Légion d'honneur sur le front des troupes pendant la guerre de 14. Ils se sont toujours combattus, mais toujours jusqu'à un certain point. La fraternité des tranchées a toujours opéré entre eux pour éviter que les liens ne fussent totalement brisés, et ce qui leur permet évidemment de coopérer. Alors l'aide, Jean Médecin, par exemple, mit à la disposition du comité une villa pour héberger quelques dizaines de juifs. Un particulier prêta une villa dans le quartier du Rigi pour habituer ces juifs à cultiver la terre afin qu'ils puissent s'embarquer vers la Terre Sainte, l'ancienne Terre Sainte, parce que ce n'était pas encore l'État d'Israël. Des hôtels les hébergeaient, des manifestations de soutien furent organisées devant. Alors pourquoi ce bon accueil tranchant terriblement avec la xénophobie ambiante qui marquait la France de cette époque-là? Pour plusieurs raisons. D'abord, ces réfugiés étaient les victimes de Mussolini, détestés dans la région, car on ne voulait surtout pas redevenir italien. Donc, les ennemis de mon ennemi sont mes amis. Le fait qu'ils fussent donc persécutés par le dictateur du pays voisin les rendait extrêmement sympathiques. Il y avait aussi une hostilité au fascisme. Alors, très significatif, l'éclaireur qui pendant des années avait vanté ce régime, son idéologie, ce régime qui faisait arriver les trains à l'heure, etc., publie ceci dans le 20 août 39. On ne peut se défendre d'un sentiment d'angoisse lorsque l'on voit des malheureux traqués au nom d'une doctrine raciste dont l'inhumanité cruelle n'a d'égal que le peu de sérieux. Autre argument, l'allure de ces personnes. Des personnes élégantes. Voici, dans le Petit Niçois, une description. Ces juifs tchécoslovaques et autrichiens, tous de bonne bourgeoisie, officiers, magistrats, professeurs, banquiers. Ils n'avaient pas l'allure du juif stéréotypé. Songez que bien avant Vichy, il y avait dans la presse d'extrême droite des caricatures antisémites où on représentait le juif, un juif scrofuleux, avec des petits cheveux frisottés, le dos voûté, noireau, crépu, etc. Et voici un juif qui arrive, décrit par le Petit Niçois. C'est un médecin officier de l'armée tchécoslovaque. C'est un juif. Mais comment se présente-t-il? Grand, blond, 30 ans au plus. Bien découplé, l'allure très anglaise. En somme, il ressemblait aux touristes que depuis le XVIIIe siècle, on avait l'habitude d'accueillir, ces touristes de luxe d'accueillir dans la région. En plus, on les disait, l'éclair le dit, gens inoffensifs. Ils se disaient en plus francophiles. Et certains ont dit, nous ne resterons pas en France, nous allons aller plus loin, en Amérique où nous avons des parents, etc. Et si la France est attaquée, nous sommes disposés à nous engager dans l'armée française. Donc, ils n'étaient pas pouvant être considérés comme des concurrents sur le marché de l'emploi. Ces bonnes dispositions de l'opinion n'influencèrent pas les pouvoirs publics, qui craignaient que parmi les juifs en question ne se fussent glissés des saboteurs, des espions, ce qui n'était pas impossible d'ailleurs, les archives le prouvent. Donc, en plus, il risquait de donner une mauvaise image de la Côte d'Azur. Certes, il présentait bien, comme on dit à Nice, il marquait bien. Mais il n'avait pas d'argent. Donc, leurs vêtements risquaient de s'élimer. Et donc, les tentations de l'oisiveté, la promiscuité dans les hôtels où ils étaient hébergés, Dieu sait ce que les mœurs pouvaient devenir. Donc, tout ça les rendait très antipathiques, de sorte que le ministre de l'Intérieur de l'époque, homme de gauche, Albert Sarraut, multiplia les circulaires incitant les autorités à la plus grande vigilance. J'en viens à ma conclusion, je suis dans les temps.
Tout à fait.
Bon, alors...
Je vous écoute avec tellement de patience.
Inch'Allah. Alors, les deux types de récits que je viens de caractériser rapidement remplissaient des fonctions différentes. Les rapports de police, avec leur ton froid et administratif, apportent à l'historien et à celui qui les dépouille des informations brutes. Les manœuvres italiennes pour faciliter le passage, les violations du droit international éhontées, puisqu'il facilite le passage clandestin des frontières avec l'aide de malfaiteurs. Les modalités techniques du passage, le portrait des réfugiés, avec les rapports de police, on peut faire une prosopographie de cette population. Parfois, on y trouve, par un témoignage, des récits de vie. On le trouve dans les archives. Moi, je suis membre du conseil de l'OFPRA. On a souvent des gens qui demandent à consulter ce que le grand-père italien arrivé en 1925, ou le grand-père ou l'arrière-grand-père, qui n'a jamais parlé en famille, mais qui a raconté sur 30 pages son odyssée à la police française, a pu raconter donc des récits de vie, mais là on les a dans les archives de police. Quelquefois, je voulais montrer les sentiments intimes des forces de l'ordre, qui n'étaient pas toujours insensibles à la détresse qu'ils voyaient. Quant aux récits de presse, bien, c'est l'opinion publique, ce sont les sentiments de la population locale, c'est le sens de l'accueil, très rare à l'époque, comme je vous le disais. Et en somme, ils nous permettent de comprendre les raisons psychologiques et politiques pour lesquelles on fit une exception à la xénophobie ambiante de ce temps-là. En somme, comme disait mon maître Guéral, ce sont les couleurs de la vie que nous donnent ces documents journalistiques. Alors, je dirais, pour terminer vraiment, que ce sont des documents complémentaires qui donnent une approche assez précise d'un épisode tragique. Les pouvoirs publics ne se laissèrent fléchir en rien. Les pouvoirs publics, je veux dire à l'échelle gouvernementale et départementale. Mais une partie de la population ne fut pas inférieure à la réputation humaniste de la République française et à son respect des droits de l'homme, la patrie des droits de l'homme. N'est-ce pas, vous rappelez au XIXe siècle, sur cette terre, tout homme a deux pays, son pays et la France. Peut-on le dire après. Mais la dimension morale de cet accueil populaire fut évidemment gâtée par l'intransigeance des pouvoirs publics. On peut donc dire que les fugitifs, les juifs persécutés, bénéficièrent d'un bon accueil, mais qu'il fut quasiment extorqué aux autorités. Et que par conséquent, le bénéfice moral est provisoire, parce qu'après, à partir de 1940, d'autres persécutions prirent le relais. Eh bien, le bénéfice moral fut évidemment aboli par la dureté des autorités. Je vous remercie. La présente communication est le fruit d'une commande, comme un passé vivant. Il s'est rappelé que jadis, j'avais été l'inventeur, enfin, au sens archivistique du terme, des archives relatives à ces passage de juifs et que j'avais publié dans un livre passé assez inaperçu, le premier résultat. Alors j'ai donc repris le dossier et complété par quelques recherches complémentaires. Alors pour situer la question, je rappellerai d'abord que l'antisémitisme est une tradition étrangère à la culture italienne. Et d'ailleurs Mussolini, à ses débuts, a fait toutes sortes de déclarations aimables à l'égard des sujets italiens de religion israélite, comme on disait alors. D'ailleurs, sur les 50 000 Italiens vivant en Italie, 50 000 femmes et enfants confondus, 5 000 avaient adhéré au parti national fasciste, et leur présence ne soulevait aucun problème. Le changement survint en 1938, au moment du raidissement totalitaire de l'Italie, de la conclusion de l'axe Rome-Berlin, et lorsque Mussolini jugea utile de se rallier à une politique antisémitique. Alors les intellectuels fascistes à la solde du régime se lancèrent dans des manifestes de la race italienne voulant montrer que les Italiens étaient d'origine aryenne, etc., etc. Toute une législation discriminatoire fut mise en place. Les Juifs exclus de l'armée, exclus de l'administration, les mariages mixtes interdits, et ça nous intéresse beaucoup pour le présent exposé, les Juifs naturalisés italiens furent déchus de leur nationalité et ainsi devenus étrangers, purent être expulsés. Le texte fondamental, c'est le décret du 12 septembre 38 qui imposa aux Juifs étrangers, qu'ils fussent étrangers anciens ou redevenus étrangers récemment, qui leur imposa de quitter l'Italie dans les 6 mois. Or, à la date du 12 mars 39, date d'échéance, beaucoup encore étaient présents en Italie. Le problème était qu'il y avait ces Juifs déchus et il y avait beaucoup de Juifs allemands, tchécoslovaques, autrichiens, qui, profitant des bonnes dispositions initiales du Doux, s'étaient réfugiés en Italie, où d'ailleurs l'entrée était facile et où les possibilités de travail s'avéraient faciles aussi. Alors, à la veille de la Grande Guerre, ces flots de Juifs étrangers étaient chassés d'Italie. Le pays le plus proche, évidemment, était la France, pays limitrophe, pays des droits de l'homme. Oui, mais en 1939, la France, depuis la fin de la Grande Guerre, était submergée sous les vagues migratoires. Les Arméniens d'abord, les Russes blancs ensuite, les Fourouchiti italiens et les victimes de toutes les dictatures européennes. Je rappelle qu'il y avait beaucoup plus de dictatures que de démocratie en Europe à ce moment-là, en ce temps-là. Les victimes du nazisme allemande, autrichienne, tchécoslovaque et à la veille de la guerre, donc début 39, à la veille des événements que je retrace ici, 500 000 d'Espagnols républicains vaincus au terme de la guerre civile espagnole. Donc la France s'était repliée dans une attitude, disons, globalement xénophobe, pour faire court. En plus, attitude fortifiée par la grande crise économique de 1929, qui n'était pas résolue à la veille de la guerre, et aussi attitude figée par peur d'une guerre avec le pays voisin, avec l'Italie, car l'Italie revendiquait le comté de Nice comme terre irrédente et la réannexion du comté, de telle sorte d'ailleurs que la frontière avait été fortement fortifiée. On avait repris les vieux ouvrages tirés de rivière et on avait construit 88 forts de tailles diverses le long de la frontière. Donc la France se repliait et à son tour, des décrets furent pris. 2 mai 38, les franchissements illégaux de la frontière furent punis de manière beaucoup plus sévère, je n'entre pas dans le détail de la législation. On créa également, par un décret de la même époque, de nouvelles brigades de gendarmerie frontalière pour garder les confins. Ces forces furent déployées depuis la côte jusque dans la vallée de la Haute-Roya. Les demandeurs d'asile étaient priés de faire la preuve, comme aujourd'hui d'ailleurs, des sévices dont ils se disaient victimes et d'obtenir un visa d'un consul français en Italie. Opération très compliquée. Donc un climat de rigueur au moment où les Juifs étrangers d'Italie se dirigèrent vers la France. Or, à la surprise des autorités françaises, Mussolini, qui, on vient de le rappeler, n'est-ce pas, considérait la population comme une richesse, Mussolini favorisa le départ de ces Juifs, et même, il mobilisa les contrebandiers promus de facto agents d'exécution de l'État, car il connaissait bien le terrain, pour qu'ils servissent de guide à ces Juifs, avec l'aide des bergers, des paysans, tous ces gens convertis en passeurs. Bien entendu, les forces françaises redoublèrent de vigilance. Alors, comme la surveillance terrestre fut renforcée, on passa à la surveillance, au passage maritime. Là, ce furent les pêcheurs et encore les contrebandiers, également convertis en agents officiels, qui, à des moments prévus, entassaient des Juifs sur des bateaux, sur le point de chavirer, bon, je n'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais ça vous rappelle évidemment des événements que nous vivons, et les amenait, bateaux peints en gris pour mieux passer inaperçus la nuit, les amenait sur les côtes françaises où des débarquements étaient prévus. Alors là aussi, la surveillance fut renforcée, la marine nationale, les vedettes des douanes, etc. Je n'entre pas dans le détail, si ça vous intéresse, je pourrais développer. Alors, j'arrive dans le sujet maintenant quand même. Cette activité suscita d'abord de nombreux rapports administratifs. Les rapports de la police, des commissaires spéciaux et de leurs collègues des autres services. Évidemment, ces rapports ont la tonalité de ce qu'ils sont, c'est-à-dire la sécheresse du ton. C'est un constat froid. on y montre, on y retrace les circonstances de l'interception de ces fugitifs, la description du groupe de juifs, la composition, l'état civil, le sexe, l'âge, la nationalité, les circonstances du passage. Et les Français, lui, sont effarés de découvrir que ce sont les Italiens, les autorités italiennes, les miliciens, les fascistes, les contrebandiers, les carabiniers qui font passer la frontière, guides agréés, en somme, qu'on leur vend même des pantoufles en feutre pour que les pas soient amortis pour le passage, ouais, qu'ils payent leur passage maritime également, très fort, etc., etc. Que les réseaux sont très bien organisés, il y a des complicités françaises, les réseaux les mieux organisés sont attendus, soit que des barques françaises se dirigeassent vers le large et qu'un transbordement fût opéré, soit que des signaux codés venant de la côte puissent avertir les Italiens que le passage était libre et qu'il n'y avait pas de force de l'ordre dans le coin. Alors, je disais froideur du ton. Quelquefois, à travers la relation administrative, perce la sensibilité des forces de l'ordre, car ce sont des hommes, eux aussi. Et de temps en temps, au détour d'une phrase, dans un paragraphe, on voit quelque chose. Je prends deux exemples. Juillet 39, deux douaniers français de Vintimille, de la gare internationale de Vintimille, apitoyés par une femme juive enceinte, prièrent deux policiers français de fermer les yeux et de faciliter le passage de cette femme. Les deux policiers, inflexibles, s'y opposèrent et, allant encore plus loin, dénoncèrent les deux douaniers afin qu'ils fussent sanctionnés. Deuxième exemple, août 39, des gardes mobiles chargés de faire rembarquer des juifs qui venaient d'accoster dans le secteur de Menton furent frappés par le fait que trois de ces juifs tentèrent de se suicider plutôt que de repartir. Aussi décidèrent-ils de les laisser pénétrer en France et de leur laisser une chance, en somme, c'est-à-dire les déférer devant la justice pour qu'ils puissent plaider leur cause devant les juges français. Donc, vous voyez, il y a quand même de temps en temps une sorte d'humanité. Ces signes d'humanité, rares du côté des... Enfin, rares, peut-être qu'il y en a-t-il davantage, mais on n'en a pas la trace archivistique. Ces signes d'humanité furent beaucoup plus fréquents dans l'opinion en général. Un exemple dans les archives, des Mentonnais, et en début 39, ayant vu des policiers essayer de refouler un groupe de juifs descendant de la montagne, ils avaient évité le pas de la mort et ils arrivaient par terre, s'interposèrent, protestèrent et convainquirent les policiers de laisser ces gens en France. Mais ce sont surtout les récits de presse qui sont les plus éloquents, les plus fréquents, avec beaucoup de sympathie, d'apitoiement. Et je vais prendre comme premier exemple un texte de l'Éclaireur de Nice, le grand journal de droite de l'époque, qui jusqu'en 38 avait été philo-fasciste, philo-italien, avait toujours nié l'existence de frictions entre les deux pays. Et là, il y a une sensiblerie sympathique finalement. Voici ce qu'ils disent. La mer très houleuse menaçait à chaque instant de faire tomber l'embarcation dans laquelle les Israélites, transis de froid, s'efforçaient, à l'aide de leurs chapeaux ou simplement de leurs pauvres mains glacées, décoper l'eau qui envahissait le bord. Une pauvre femme, les yeux remplis d'effroi, le masque de la douleur peint sur le visage, gisait au fond de la barque, à même l'eau qui l'emplissait lentement, alors qu'elle portait en son sein un enfant qui doit naître dans quelques jours. Donc, voilà pour un journal de droite. Alors, a fortiori, un journal de gauche, le Petit Niçois, centre-gauche, la mouvance radicale, si vous voulez. Il parle donc de juifs arrivés par voie maritime. Bien entendu, ils avaient dû payer la forte somme pour leur transport clandestin. L'un même qui n'avait plus d'argent avait dû remettre sa montre en or et un appareil photographique, tout ce qui lui restait, pour prix de son passage. Alors, je ne vais pas multiplier les citations, mais on trouve des formules que j'ai relevées. Scènes déchirantes se produisant au port, désespoir, douleur profonde, homme fou de désespoir voulant se suicider, etc. Alors, la presse nous indique également qu'un comité d'assistance aux réfugiés juifs se constitua dès septembre 1938, avec à sa tête Jean Médecin, maire de droite de Nice, Virgile Barrel, fondateur du Parti communiste dans les Alpes-Maritimes, et l'inévitable Monseigneur Raymond, évêque de Nice, l'oncle de l'historien René Raymond, très philo-sémite. Il avait des origines, évidemment, du sillon de Marc Sangnier. Et puis, la fraternité des monothéistes du livre. Credo in unum Deum patrem omnipotentem factorem. Je ne sais pas pour vous citer le credo, mais cette fraternité jouait beaucoup. Et en plus, entre ces trois hommes, tous les trois décorés de la Légion d'honneur sur le front des troupes pendant la guerre de 14. Ils se sont toujours combattus, mais toujours jusqu'à un certain point. La fraternité des tranchées a toujours opéré entre eux pour éviter que les liens ne fussent totalement brisés, et ce qui leur permet évidemment de coopérer. Alors l'aide, Jean Médecin, par exemple, mit à la disposition du comité une villa pour héberger quelques dizaines de juifs. Un particulier prêta une villa dans le quartier du Rigi pour habituer ces juifs à cultiver la terre afin qu'ils puissent s'embarquer vers la Terre Sainte, l'ancienne Terre Sainte, parce que ce n'était pas encore l'État d'Israël. Des hôtels, les hébergeaient, des manifestations de soutien furent organisées devant. Alors pourquoi ce bon accueil tranchant terriblement avec la xénophobie ambiante qui marquait la France de cette époque-là? Pour plusieurs raisons. D'abord, ces réfugiés étaient les victimes de Mussolini, détestés dans la région, car on ne voulait surtout pas redevenir italien. Donc, les ennemis de mon ennemi sont mes amis. Le fait qu'ils fussent donc persécutés par le dictateur du pays voisin les rendait extrêmement sympathiques. Il y avait aussi une hostilité au fascisme. Alors, très significatif, l'éclaireur qui pendant des années avait vanté ce régime, son idéologie, ce régime qui faisait arriver les trains à l'heure, etc., publie ceci dans le 20 août 1939. « On ne peut se défendre d'un sentiment d'angoisse lorsque l'on voit des malheureux traqués au nom d'une doctrine raciste dont l'inhumanité cruelle n'a d'égal que le peu de sérieux. » Autre argument, l'allure de ces personnes. Des personnes élégantes. Voici, dans le Petit Niçois, une description. Ces juifs tchécoslovaques et autrichiens, tous de bonne bourgeoisie, officiers, magistrats, professeurs, banquiers. Ils n'avaient pas l'allure du juif stéréotypé. Songez que bien avant Vichy, il y avait dans la presse d'extrême droite des caricatures antisémites où on représentait le juif, un juif scrofuleux, avec des petits cheveux frisottés, le dos voûté, noirot, crépus, etc. Et voici un juif qui arrive, décrit par le Petit Niçois. C'est un médecin officier de l'armée tchécoslovaque. C'est un juif. Mais comment se présente-t-il? Grand, blond, 30 ans au plus, bien découplé, l'allure très anglaise. En somme, il ressemblait aux touristes que depuis le XVIIIe siècle, on avait l'habitude d'accueillir, ces touristes de luxe d'accueillir dans la région. En plus, on les disait, l'éclair le dit, gens inoffensifs. Ils se disaient en plus francophiles. Et certains en disaient, nous ne resterons pas en France, nous allons aller plus loin, en Amérique, où nous avons des parents, etc. Et si la France est attaquée, nous sommes disposés à nous engager dans l'armée française. Donc, ils n'étaient pas pouvant être considérés comme des concurrents sur le marché de l'emploi. Ces bonnes dispositions de l'opinion n'influencèrent pas les pouvoirs publics, qui craignaient que parmi les juifs en question ne se fussent glissés des saboteurs, des espions, ce qui n'était pas impossible d'ailleurs, les archives le prouvent. En plus, ils risquaient de donner une mauvaise image de la Côte d'Azur. Certes, ils présentaient bien, comme on dit à Nice, ils marquaient bien, mais ils n'avaient pas d'argent, donc leurs vêtements risquaient de s'élimer. Et donc, les tentations de l'oisiveté, la promiscuité dans les hôtels où ils étaient hébergés, Dieu sait ce que les mœurs pouvaient devenir. Donc tout ça les rendait très antipathiques, de sorte que le ministre de l'Intérieur de l'époque, homme de gauche, Albert Sarraut, multiplia les circulaires incitant les autorités à la plus grande vigilance. J'en viens à ma conclusion, je suis dans les temps.
Tout à fait.
Bon. Alors.
Je vous écoute avec
tellement de patience. Inch'Allah. Alors, les deux types de récits que je viens de caractériser rapidement, remplissaient des fonctions différentes. Les rapports de police, avec leur ton froid et administratif, apportent à l'historien et à celui qui les dépouille des informations brutes. Les manœuvres italiennes pour faciliter le passage, les violations du droit international, éhontées, puisqu'ils facilitent le passage clandestin des frontières, avec l'aide de malfaiteurs. les modalités techniques du passage, le portrait des réfugiés. Avec les rapports de police, on peut faire une prosopographie de cette population. Parfois, on y trouve, par un témoignage, des récits de vie. On le trouve dans les archives. Moi, je suis membre du conseil de l'OFPRA. On a souvent des gens qui demandent à consulter ce que le grand-père italien arrivé en 1925, ou le grand-père ou l'arrière-grand-père, qui n'a jamais parlé en famille, mais qui a raconté sur 30 pages son odyssée à la police française, a pu raconter. Donc, des récits de vie, mais là, on les a dans les archives de police. Quelquefois, je voulais montrer les sentiments intimes des forces de l'ordre qui n'étaient pas toujours insensibles à la détresse qu'ils voyaient. Quant aux récits de presse, bien, c'est l'opinion publique. Ce sont les sentiments de la population locale. C'est le sens de l'accueil, très rare à l'époque, comme je vous le disais. Et en somme, ils nous permettent de comprendre les raisons psychologiques et politiques pour lesquelles on fit une exception à la xénophobie ambiante de ce temps-là. En somme, comme disait mon maître Guérald, ce sont les couleurs de la vie que nous donnent ces documents journalistiques. Alors, je dirais, pour terminer vraiment, que ce sont des documents complémentaires qui donnent une approche assez précise d'un épisode tragique. Les pouvoirs publics ne se laissèrent fléchir en rien. Les pouvoirs publics, je veux dire à l'échelle gouvernementale et départementale. Mais une partie de la population ne fut pas inférieure à la réputation humaniste de la République française et à son respect des droits de l'homme, la patrie des droits de l'homme. N'est-ce pas, vous rappelez au XIXe siècle, sur cette terre, tout homme a deux pays, son pays et la France. Peut-on le dire après? Mais la dimension morale de cet accueil populaire fut évidemment gâtée par l'intransigeance des pouvoirs publics. On peut donc dire que les fugitifs, les juifs persécutés, bénéficièrent d'un bon accueil, mais qu'il fut quasiment extorqué aux autorités et que par conséquent le bénéfice moral est provisoire parce qu'après, à partir de 1940, d'autres persécutions prirent le relais. Eh bien, le bénéfice moral fut évidemment aboli par la dureté des autorités. Je vous remercie. La présente communication est le fruit d'une commande que m'a passée Yvan. Il s'est rappelé que jadis j'avais été l'inventeur, enfin au sens archivistique du terme, des archives relatives à ces passages de juifs et que j'avais publié dans un livre passé assez inaperçu, le premier résultat. Alors j'ai donc repris le dossier et complété par quelques recherches complémentaires. Alors pour situer la question, je rappellerai d'abord que l'antisémitisme est une tradition étrangère à la culture italienne. Et d'ailleurs, Mussolini, à ses débuts, a fait toutes sortes de déclarations aimables à l'égard des sujets italiens de religion israélite, comme on disait alors. D'ailleurs, sur les 50 000 Italiens vivant en Italie, 50 000 femmes et enfants confondus, 5 000 avaient adhéré au parti national fasciste. Et leur présence ne soulevait aucun problème. Le changement survint en 1938, au moment du raidissement totalitaire de l'Italie, de la conclusion de l'axe Rome-Berlin, et lorsque Mussolini jugea utile de se rallier à une politique antisémitique. Alors les intellectuels fascistes à la solde du régime se lancèrent dans des manifestes de la race italienne, voulant montrer que les Italiens étaient d'origine aryenne, etc., etc. Toute une législation discriminatoire fut mise en place, les juifs exclus de l'armée, exclus de l'administration, les mariages mixtes interdits, et, ça nous intéresse beaucoup pour le présent exposé, les juifs naturalisés italiens furent déchus de leur nationalité et ainsi, devenus étrangers, purent être expulsés. Le texte fondamental, c'est le décret du 12 septembre 1938 qui imposa aux juifs étrangers, qu'ils fussent étrangers anciens ou redevenus étrangers récemment, qui leur imposa de quitter l'Italie dans les 6 mois. Or, à la date du 12 mars 1939, date d'échéance, beaucoup encore étaient présents en Italie. Le problème était qu'il y avait ces juifs déchus et il y avait beaucoup de juifs allemands, tchécoslovaques, autrichiens, qui, profitant des bonnes dispositions initiales du Doutch, s'étaient réfugiés en Italie, où d'ailleurs l'entrée était facile et où les possibilités de travail s'avéraient faciles aussi. Alors, à la veille de la Grande Guerre, ces flots de juifs étrangers était chassé d'Italie. Le pays le plus proche, évidemment, était la France, pays limitrophe, pays des droits de l'homme. Oui, mais en 1939, la France, depuis la fin de la Grande Guerre, était submergée sous les vagues migratoires. Les Arméniens d'abord, les Russes blancs ensuite, les Fourouchiti italiens et les victimes de toutes les dictatures européennes. Je rappelle qu'il y avait beaucoup plus de dictatures que de démocratie en Europe à ce moment-là, en ce temps-là. Les victimes du nazisme allemande, autrichienne, tchécoslovaque, et à la veille de la guerre, donc début 1939, à la veille des événements que je retrace ici, 500 000 d'Espagnols républicains vaincus au terme de la guerre civile espagnole. Donc la France s'était repliée dans une attitude, disons, globalement xénophobe, pour faire court. En plus, attitude fortifiée par la grande crise économique de 1929, qui n'était pas résolue à la veille de la guerre, et aussi attitude figée par peur d'une guerre avec le pays voisin, avec l'Italie, car l'Italie revendiquait le comté de Nice comme terre irrédente et la réannexion du comté, de telle sorte d'ailleurs que la frontière avait été fortement fortifiée. On avait repris les vieux ouvrages serrés de rivière et on avait construit 88 forts de tailles diverses le long de la frontière. Donc la France se repliait et à son tour, des décrets furent pris. 2 mai 38, les franchissements illégaux de la frontière furent punis de manière beaucoup plus sévère, je n'entre pas dans le détail de la législation. On créa également, par un décret de la même époque, de nouvelles brigades de gendarmerie frontalière pour garder les confins. Ces forces furent déployées depuis la côte jusque dans la vallée de la Haute-Roya. Les demandeurs d'asile étaient priés de faire la preuve, comme aujourd'hui d'ailleurs, des sévices dont ils se disaient victimes et d'obtenir un visa d'un consul français en Italie. Opération très compliquée. Donc un climat de rigueur au moment où les juifs étrangers d'Italie se dirigèrent vers la France. Or, à la surprise des autorités françaises, Mussolini, qui, on vient de le rappeler, n'est-ce pas, considérait la population comme une richesse, Mussolini favorisa le départ de ces juifs, et même il mobilisa les contrebandiers promus de facto agents d'exécution de l'État, car il connaissait bien le terrain, pour qu'ils servissent de guide à ces juifs, avec l'aide des bergers, des paysans, tous ces gens convertis en passeurs. Bien entendu, les forces françaises redoublèrent de vigilance. Alors, comme la surveillance terrestre fut renforcée, on passa à la surveillance, au passage maritime. Là, ce furent les pêcheurs et encore les contrebandiers, également convertis en agents officiels, qui, à des moments prévus, entassaient des juifs sur des bateaux, sur le point de chavirer, bon, j'ai pas le temps d'entrer là-dedans, mais ça vous rappelle évidemment des événements que nous vivons, et les amenaient, bateaux peints en gris pour mieux passer inaperçus la nuit, les amenaient sur les côtes françaises, où des débarquements étaient prévus. Alors là aussi, la surveillance fut renforcée, la marine nationale, les vedettes des douanes, etc. Je n'entre pas dans le détail, si ça vous intéresse, je pourrais développer. Alors, j'arrive dans le sujet maintenant quand même. Cette activité suscita d'abord de nombreux rapports administratifs. Les rapports de la police, des commissaires spéciaux et de leurs collègues des autres services. Évidemment, ces rapports ont la tonalité de ce qu'ils sont, c'est-à-dire la sécheresse du ton. C'est un constat froid. On y retrace les circonstances de l'interception de ces fugitifs, la description du groupe de juifs, la composition, l'état civil, le sexe, l'âge, la nationalité, les circonstances du passage. Les Français évidemment sont effarés de découvrir que ce sont les Italiens, les autorités italiennes, les miliciens, les fascistes, les contrebandiers, les carabiniers qui font passer la frontière, guides agréés en somme, qu'on leur vend même des pantoufles en feutre pour que les pas soient amortis pour le passage, qu'ils payent leur passage maritime également très fort, etc., etc. Que les réseaux sont très bien organisés, il y a des complicités françaises, les réseaux les mieux organisés sont attendus, soit que des barques françaises se dirigeassent vers le large et qu'un transbordement fût opéré, soit que des signaux codés venant de la côte puissent avertir les Italiens que le passage était libre et qu'il n'y avait pas de force de l'ordre dans le coin. Alors, je disais froideur du ton. Quelquefois, à travers la relation administrative, perce la sensibilité des forces de l'ordre, car ce sont des hommes, eux aussi. Et de temps en temps, au détour d'une phrase, dans un paragraphe, on voit quelque chose. Je prends deux exemples. Juillet 39, deux douaniers français de Vintimille, de la gare internationale de Vintimille, apitoyés par une femme juive enceinte, prièrent deux policiers français de fermer les yeux et de faciliter le passage de cette femme. Les deux policiers, inflexibles, s'y opposèrent et, allant encore plus loin, dénoncèrent les deux douaniers afin qu'ils fussent sanctionnés. Deuxième exemple, août 39, des gardes mobiles chargés de faire rembarquer des juifs qui venaient d'accoster dans le secteur de Menton furent frappés par le fait que trois de ces juifs tentèrent de se suicider plutôt que de repartir. Aussi décidèrent-ils de les laisser pénétrer en France et de leur laisser une chance, en somme, c'est-à-dire les déférer devant la justice pour qu'ils puissent plaider leur cause devant les juges français. Donc, vous voyez, il y a quand même de temps en temps une sorte d'humanité. Ces signes d'humanité, rares du côté des... Enfin, rares, peut-être y en a-t-il davantage, mais on n'en a pas la trace archivistique. Ces signes d'humanité furent beaucoup plus fréquents dans l'opinion en général. Un exemple dans les archives, des Mentonnais, et en début 39, ayant vu des policiers essayer de refouler un groupe de juifs descendant de la montagne, ils avaient évité le pas de la mort et ils arrivaient par la terre, s'interposèrent, protestèrent et convainquirent les policiers de laisser ces gens en France. Mais ce sont surtout les récits de presse qui sont les plus éloquents, les plus fréquents, avec beaucoup de sympathie, d'apitoiement. Et je vais prendre comme premier exemple un texte de l'Éclaireur de Nice, le grand journal de droite de l'époque, qui jusqu'en 1938 avait été philo-philo-fasciste, philo-italien, avait toujours nié l'existence de friction entre les deux pays. Et là, il y a une sensiblerie, sympathique finalement. Voici ce qu'ils disent. La mer très houleuse menaçait à chaque instant de faire tomber l'embarcation dans laquelle les Israélites, transis de froid, s'efforçaient, à l'aide de leurs chapeaux ou simplement de leurs pauvres mains glacées, décoper l'eau qui envahissait le bord. Une pauvre femme, les yeux remplis d'effroi, le masque de la douleur peint sur le visage, gisait au fond de la barque, à même l'eau qui l'emplissait lentement, alors qu'elle portait en son sein un enfant qui doit naître dans quelques jours. Donc, voilà pour un journal de droite. Alors, a fortiori, un journal de gauche, le Petit Niçois, centre-gauche, la mouvance radicale, si vous voulez. Ils parlent donc de juifs arrivés par voie maritime. Bien entendu, ils avaient dû payer la forte somme pour leur transport clandestin. L'un même qui n'avait plus d'argent avait dû remettre sa montre en or et un appareil photographique, tout ce qui lui restait pour prix de son passage. Alors, je ne vais pas multiplier les citations, mais on trouve des formules que j'ai relevées. Scènes déchirantes se produisant au port, désespoir, douleur profonde, homme fou de désespoir voulant se suicider, etc. Alors, la presse nous indique également qu'un comité d'assistance aux réfugiés juifs se constitua dès septembre 1938 avec à sa tête Jean Médecin, maire de droite de Nice, Virgile Barrel, fondateur du Parti communiste dans les Alpes-Maritimes, et l'inévitable Monseigneur Raymond, évêque de Nice, l'oncle de l'historien René Raymond, très philo-sémite, il avait des origines évidemment du sillon de Marc Sangnier, et puis la fraternité des monothéistes du livre, credo in unum deum patrem omnipotentem factorem, enfin, je ne vais pas les pauvres citer le credo, mais cette fraternité jouait beaucoup. Et en plus, entre ces trois hommes, tous les trois décorés de la Légion d'honneur sur le front des troupes pendant la guerre de 14. Ils se sont toujours combattus, mais toujours jusqu'à un certain point. La fraternité des tranchées a toujours opéré entre eux pour éviter que les liens ne fussent totalement brisés, et ce qui leur permit évidemment de coopérer. Alors l'aide, Jean Médecin par exemple, mit à la disposition du comité une villa pour héberger quelques dizaines de juifs. Un particulier prêta une villa dans le quartier du Rigi pour habituer ces juifs à cultiver la terre afin qu'ils puissent s'embarquer vers la Terre Sainte, l'ancienne Terre Sainte, ce n'était pas encore l'État d'Israël. Des hôtels, les hébergeaient, des manifestations de soutien furent organisées devant. Alors pourquoi ce bon accueil, tranchant terriblement avec la xénophobie ambiante qui marquait la France de cette époque-là, pour plusieurs raisons. D'abord, ces réfugiés étaient les victimes de Mussolini, détestés dans la région, car on ne voulait surtout pas redevenir italien. Donc, les ennemis de mon ennemi sont mes amis. Le fait qu'ils fussent donc persécutés par le dictateur du pays voisin les rendait extrêmement sympathiques. Il y avait aussi une hostilité au fascisme. Alors, très significatif, l'éclaireur qui pendant des années avait vanté ce régime, son idéologie, ce régime qui faisait arriver les trains à l'heure, etc., publie ceci dans le 20 août 1939. « On ne peut se défendre d'un sentiment d'angoisse lorsque l'on voit des malheureux traqués au nom d'une doctrine raciste dont l'inhumanité cruelle n'a d'égal que le peu de sérieux. » Autre argument, l'allure de ces personnes. Des personnes élégantes. Voici dans le Petit Niçois une description. Ces juifs tchécoslovaques et autrichiens, tous de bonne bourgeoisie, officiers, magistrats, professeurs, banquiers. Ils n'avaient pas l'allure du juif stéréotypé. Songez que bien avant Vichy, il y avait dans la presse d'extrême droite des caricatures antisémites où on représentait le juif, un juif scrofuleux, avec des petits cheveux frisottés, le dos voûté, noirot, crépus, etc. Et voici un juif qui arrive, décrit par le Petit Niçois. C'est un médecin officier de l'armée tchécoslovaque. C'est un juif. Mais comment se présente-t-il ? Grand, blond, 30 ans au plus, bien découplé, l'allure très anglaise. En somme, il ressemblait aux touristes que depuis le XVIIIe siècle, on avait l'habitude d'accueillir, ces touristes de luxe d'accueillir dans la région. En plus, on les disait, l'éclair le dit, gens inoffensifs. Ils se disaient en plus francophiles. Et certains leur disaient, nous ne resterons pas en France, nous allons aller plus loin, en Amérique, où nous avons des parents, etc. Et si la France est attaquée, nous sommes disposés à nous engager dans l'armée française. Donc, ils n'étaient pas, pouvant être considérés comme des concurrents sur le marché de l'emploi. Ces bonnes dispositions de l'opinion n'influencèrent pas les pouvoirs publics, qui craignaient que parmi les juifs en question ne se fussent glissés des saboteurs, des espions, ce qui n'était pas impossible d'ailleurs, les archives le prouvent. En plus, ils risquaient de donner une mauvaise image de la Côte d'Azur. Certes, ils présentaient bien, comme on dit à Nice, ils marquaient bien, mais ils n'avaient pas d'argent, donc leurs vêtements risquaient de s'élimer. Et donc, les tentations de l'oisiveté, la promiscuité dans les hôtels où ils étaient hébergés, Dieu sait ce que les mœurs pouvaient devenir. Donc tout ça les rendait très antipathiques, de sorte que le ministre de l'Intérieur de l'époque, homme de gauche, Albert Sarraut, multiplia les circulaires incitant les autorités à la plus grande vigilance. J'en viens à ma conclusion, je suis dans les temps.
Tout à fait.
Bon, alors...
Je vous écoute avec tellement de patience.
Inch'Allah. Alors, les deux types de récits que je viens de caractériser rapidement, remplissaient des fonctions différentes. Les rapports de police, avec leur ton froid et administratif, apportent à l'historien et à celui qui les dépouille des informations brutes. Les manœuvres italiennes pour faciliter le passage, les violations du droit international éhontées, puisqu'ils facilitent le passage clandestin des frontières avec l'aide de malfaiteurs. Les modalités techniques du passage, le portrait des réfugiés. Avec les rapports de police, on peut faire une prosopographie de cette population. Parfois, on y trouve, par un témoignage, des récits de vie. On les trouve dans les archives. Moi, je suis membre du conseil de l'OFPRA. On a souvent des gens qui demandent à consulter ce que le grand-père italien arrivé en 1925, ou le grand-père ou l'arrière-grand-père, qui n'a jamais parlé en famille, mais qui a raconté sur 30 pages son odyssée à la police française, a pu raconter. Donc, des récits de vie, mais là, on les a dans les archives de police. Quelquefois, je voulais montrer les sentiments intimes des forces de l'ordre qui n'étaient pas toujours insensibles à la détresse qu'ils voyaient. Quant au récit de presse, bien, c'est l'opinion publique. Ce sont les sentiments de la population locale. C'est le sens de l'accueil, très rare à l'époque, comme je vous le disais. Et en somme, ils nous permettent de comprendre les raisons psychologiques et politiques pour lesquelles on fit une exception à la xénophobie ambiante de ce temps-là. En somme, comme disait mon maître Guéral, ce sont les couleurs de la vie que nous donnent ces documents journalistiques. Alors je dirais pour terminer vraiment que ce sont des documents complémentaires qui donnent une approche assez précise d'un épisode tragique. Les pouvoirs publics ne se laissèrent fléchir en rien. Les pouvoirs publics, je veux dire à l'échelle gouvernementale et départementale. Mais une partie de la population ne fut pas inférieure à la réputation humaniste de la République française et à son respect des droits de l'homme, la patrie des droits de l'homme. N'est-ce pas, vous rappelez au XIXe siècle, sur cette terre, tout homme a deux pays, son pays et la France. Peut-on le dire après ? Mais la dimension morale de cet accueil populaire fut évidemment gâtée par l'intransigeance des pouvoirs publics. On peut donc dire que les fugitifs, les juifs persécutés, bénéficièrent d'un bon accueil, mais qu'il fut quasiment extorqué aux autorités et que par conséquent le bénéfice moral est provisoire parce qu'après, à partir de 1940, d'autres persécutions prirent le relais. Eh bien, le bénéfice moral fut évidemment aboli par la dureté des autorités. Je vous remercie.